102.1, maintenant 100% parler en semaine. 100% talk. Une propriété Leclerc Communication. Le midi, on en jase. À Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Là, vous commencez à être habitué à l'émission d'En jase. C'est notre quatrième semaine, Pascal. D'après moi, les auditeurs le savent.
On est vraiment en train de valser, là. Ça
exactement.
Fait,
ouais. C'est fini, Marceau, le midi. C'est On en jase de midi à 14h avec Pascal CV et Jeff Fortin pour nous joindre 418-971-1021. On est disponible sur Twitch également, .tv/blvd/FM. Notre application, meilleure façon de nous suivre, Boulevard 101 sur App Store et Google Play Store et la web radio sur blvd.fm.
Fallait qu'on en parle du meurtre du côté de Lévis.
Oui.
L'avocate de Vincent Boulanger, bon, celui qui est présumé tueur, en fait, d'Alain Dubois, meurtre du 11 septembre dernier, officiellement va devoir se soumettre à un examen psychiatrique. Ça vient de tomber, donc son avocate qui a réclamé cette évaluation-là. On veut déterminer si son client, qui a 48 ans, est apte à subir un procès.
Et quand je parle que le 418-971-1021, on lit tous vos textos et on aime vous lire et vous voir réagir, eh bien, Steve qui écrit « Ouais, c'est très malaisant le discours de Donald Trump hier lors des funérailles de Charlie Kirk et justement la meilleure personne pour nous en parler. Luc Laliberté, ex-enseignant de l'histoire des États-Unis au Cégep Garneau, mais surtout chroniqueur maintenant politique américaine dans plusieurs médias ici au Québec. Luc, comment vas-tu? »
Bonjour à vous deux. Je vais, écoute, égoïstement, en dehors du contexte global, je vais très bien.
Parfait.
C'est ce qui permet de jeter un œil sur des choses qui vont un peu moins bien.
Bon, on est content que tu ailles bien. Honnêtement, là, on va en prendre des gens qui vont bien parce qu'effectivement, ça vient un peu lourd
c'est
des fois.
C'est pas évident. Oui. Luc, dis-moi donc, est-ce que tu as vécu le même malaise que Steve, le même malaise que moi et Pascal, on a vécu en entendant Donald Trump parler que lui, il déteste ses opposants, alors Kerry Cocker qui avait fait un discours rassembleur en pardonnant à l'assassin de son mari?
Écoute, on a eu quelque chose de très, très, très fort. Je pense que l'épouse, d'abord, de la conjointe, y est allée d'un message que son mari n'aurait pas renié. Donc, il a toujours dit, puis c'est ce que ses partisans, d'ailleurs, soulèvent, hein, qu'il voulait débattre, qu'il voulait discuter, mais qu'on peut s'asseoir, qu'on n'a pas besoin de cette haine, de la violence. Donc, je pense que la conjointe a porté ce message haut et fort. Maintenant, le président, malheureusement, oui, j'ai eu le même malaise que cet auditeur qui prend la peine d'écrire. Et c'est le même malaise que j'ai depuis longtemps sur ce point-là, pendant la présidence de Donald Trump, que ce soit la première présidence ou que ce soit ce deuxième mandat. Le président américain, et c'est une constante, on a eu des républicains et des démocrates, là, d'ailleurs, je couvre de plus près où j'enseignais la politique, ça a commencé sous Bill Clinton. Et la fin de Bush père et le début du mandat de Clinton, c'est là où on fait pas mal naître la période de polarisation dans laquelle maintenant, où on semble maintenant avoir atteint un sommet. Donc, cette polarisation-là, elle n'est pas nouvelle. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aller réécouter Bill Clinton, aller réécouter George W. Bush ou écouter Bush père. Chaque fois qu'il y a eu des crises, et malheureusement, il y en a des crises, il y en a des drames, il y a des tueries malheureusement trop régulièrement aux États-Unis, ces présidents-là, républicains et démocrates, ont toujours tenu à rassembler tout le monde dans les périodes les plus tendues. Mm-hmm. On prenait la peine d'assurer à tout le monde qu'on était le président de tous les Américains et pas le président de ceux qui ont voté pour moi ou qui ont voté pour un candidat en particulier. Et Donald Trump le fait, je fais un guess ou une tentative avec les gens qui sont à l'écoute, puis avec vous deux, retournez lire les souhaits de bonne année, de joyeux Noël, ou du Thanksgiving du président dans les dernières années, et trouvez-moi un moment où il ne termine pas des souhaits qui devraient être pour tout le monde par il prend la peine d'ajouter, même à vous, les woke, hein, ou même à vous, la nouvelle mouture de woke, en passant, c'est de radical left, hein, c'est cette gauche radicale. On ne sait pas trop ce qu'il y a là-dedans, à part tous ceux que Donald Trump n'aime pas ou avec qui il est en désaccord, mais ça ne va pas habituellement avec la fonction. Mais on n'a pas une présidence habituelle. Donald Trump prend un malin plaisir à être tout ce que n'est pas habituellement cette institution-là. Il a défié presque toutes les conventions, toutes les traditions. Et quand c'est une tradition, mais c'est pas écrit nulle part, hein. Une tradition, ça le dit, on le fait par habitude, finalement, on le fait parce que c'est ancré. Mais il y a rien nulle part qui dit que le président américain doit parler à tout le monde tout le temps. C'est pas ça que ça dit, la Constitution américaine. Donc, oui, j'ai trouvé ça regrettable dans un moment comme celui-là, où c'est volatile, où il y a des gens, on l'a vu avec l'assassinat, là, il y a des gens qui sont armés, il y a des gens qui sont prêts à prendre les armes. La moindre des choses, à la rigueur, n'en parlait pas, M. le Président, mais la moindre des choses aurait été d'y aller d'un appel au calme.
Luc, je parle souvent d'apaisement des tensions. On avait vu un genre de difficulté pour Donald Trump de le faire lors de son premier mandat. Les choses, le temps a passé, on est arrivé avec un deuxième mandat que je trouvais plus revanchard. Hein? Essayer de rétablir son image versus gérer les États-Unis. On sent vraiment une division du peuple actuellement. Je ne comprends pas que Donald Trump et son équipe, par exemple, ne le comprennent pas. Alors, je suis rendue à me poser la question, quel est le dessein, quel est le but de Donald Trump? Je pense que c'est une question qui est cruciale en ce moment.
Ah, écoute, Pascal, communion d'esprit ce midi, on se rejoint en début d'après-midi. Je pense que c'est voulu. Quand on regarde les sondages, la plupart des Américains se disent centristes. Peut-être centre-gauche, centre-droite, mais la plupart des Américains ne sont pas dans les extrêmes. Donc, normalement, on devrait tenter de les rejoindre, on devrait tenter de leur parler. Certains ont voté pour Donald Trump sans être des partisans. Ils ne se voyaient pas voter démocrate. Ils ont préféré y aller pour un républicain, que ce soit Donald Trump ou d'autres. Mais ça ne semble pas intéresser le président de jouer avec ceux qui sont au centre. On veut aller vers l'extrême. Et une chose que j'ai lue, que j'ai dite et redite, ça vient entre autres du projet 2025 qui avait été pensé par ce qu'on appelle la Heritage Foundation, qui est ce qu'on appelle un think tank. Donc, un think tank, un groupe finalement de gens qui réfléchissent la politique. Et ces gens-là souhaitaient, dans leur programme, qu'applique en passant Donald Trump, que le président ait de plus en plus de pouvoir. Et donc, tu disais, quel est le dessein du président? Au-delà de tout ça, tout ce qu'on peut récupérer et canaliser pour justifier que le président ait plus de pouvoir, incluant plus de pouvoir que ce que la Constitution prévoyait, c'est ça le dessein. Donc, on va très loin parfois, vous avez peut-être lu hein, des accusations de fascisme ou d'extrême droite. On n'est pas là. Moi, je pense qu'on devrait, au moment où on se parle, utiliser dérive autoritaire. Dérive autoritaire au sens où c'est le souhait clairement de l'administration Trump. On fait tout ce qu'on peut pour avoir plus de pouvoir. Et ces pouvoirs-là n'ont pas été conférés par la Constitution américaine. Mais en même temps, ben, si on veut justifier qu'on prend plus de pouvoir, ben, c'est bien, entre guillemets, si les gens ont peur, s'ils craignent, si on les divise, ben, c'est voter maintenant pour moi. Les réseaux sociaux n'aident pas non plus. Hein. On le sent parfois ici, puis c'est très, très clair aux États-Unis. Les algorithmes, les chambres d'écho, ça fait des ravages. Chez nous, on le voit, par exemple, vous en avez peut-être à l'occasion à l'émission, hein, si on se résume ou si on se limite aux réseaux sociaux, on sort dans la rue après, puis on se dit, mon Dieu, il y a des gens qui sourient, il y a des gens qui s'entraident.
Ouais, c'est ça, c'est différent. Ben, d'ailleurs, oui, les médias sociaux représentent peut-être 4-5% de la population, 95%.
Ben, voilà.
Et un peu plus au centre. Je me trompe-tu en pensant ça, Luc?
Ben, écoute, ça va dans le sens de ce que je lis puis de ce que je constate aux États-Unis. Donc, les statistiques aux États-Unis sont claires. Il y a peut-être 6% des gens qui se définissent dans les extrêmes. Mais on a l'impression que les réseaux sociaux, pour générer plus de clics, pour générer plus de circulation, on a l'impression qu'on va miser sur les 6% ou qu'on les met en valeur à tout le moins plus que les autres. Et quand je discute avec les gens, je vais discuter, ça m'arrive souvent parce que j'adore ça, discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais c'est convivial, ça peut être plus intense par moment, mais ça ne ressemble jamais à ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Et aux États-Unis, c'est très, très, très fort et ça l'est encore plus pendant les campagnes électorales.
Il y a beaucoup de démotivité dans tout ça aussi. Puis, tu sais, on a reçu un texto au 88-971-1021 qui dit « Ils ont tenté de le tuer deux fois. Ils ont assassiné un de ses plus proches collaborateurs et vous voudriez qu'il pardonne. Le temps n'est pas au pardon, désolé. Vous vous plantez royalement. » Je vais me permettre une opinion, les gars, je veux vous entendre aussi là-dessus.
Let's go.
Je pense qu'en aucun cas, on ne doit pas dénoncer ce qui s'est passé. Mm-hmm. Ce doit être inadmissible. On ne tue pas quelqu'un qui n'a pas la même opinion que nous. On ne tue pas quelqu'un, point. On est d'accord avec ça. Si on met le doigt sur le pourquoi, ce qui est enquête, qu'on l'évoque, qu'on en parle, mais il y a une différence avec le fait de ne pas calmer une tension et de ne pas rallier son peuple quand une tragédie arrive comme celle-là, comme on voit peut-être pour la défense de la liberté d'expression, mm-hmm. où là, différentes personnes de différents camps se disent « OK, là, on s'affronte en termes d'idées, d'idéologie, on s'affronte socialement avec nos verbes, mais même si on a la verbe qui est différente, l'opinion qui est différente, on doit défendre le fait qu'on a le droit de parler. » Est-ce qu'on fait une différence de votre côté, les gars, aussi là-dessus, par rapport aux commentaires qu'on a reçus?
Et c'est intéressant parce que bien des gens réagissent comme ça. Et si je peux me permettre, j'ai une longue expérience, mais surtout du terrain aussi aux États-Unis. Ce à quoi on assiste, et là, je ne parle que du président. Je ne parle pas de Kirk, je ne parle pas de sa conjointe non plus. Carrément, le président récupère ça parce que la colère, ça l'aide politiquement. Ça l'aide à déployer la garde nationale. Pour notre auditeur qui a répondu en disant « Vous voudriez qu'il pardonne », est-ce qu'il était là, par exemple, pour montrer la récupération? Est-ce qu'il a parlé quand, cet été, on a assassiné une politicienne du Minnesota et son conjoint? On les a assassinés lâchement. On a pris la peine d'abattre le chien avant de sortir de la maison. On a essayé, pendant une campagne électorale, d'enlever la gouverneure du Michigan pour être en mesure de l'éliminer. Il y a eu des gens arrêtés pour ça. Il y a eu un procès. Mme Whitmer, c'est une démocrate. Donc, en passant, il y a même des juges de la Cour suprême hein, qu'on a tenté d'attaquer, qu'on a menacé jusque chez eux. Donc, là, on est en au-delà des étiquettes des partis politiques. Ce que je disais à propos de Donald Trump, c'est oui, il a été victime d'une tentative d'assassinat. On l'a couvert, on l'a relevé, et c'est horrible. Et j'espère que de chaque côté, on condamne ça. Mais normalement, un président comme Obama, par exemple, j'ai déjà dit, hein, de l'autre côté, on l'oublie, mais quand Obama était président, je disais, attendez un peu, les gens qui sont plus à gauche, plus progressistes, les gens qui l'aiment beaucoup, d'abord, un, il y a eu des faiblesses à cette administration-là, et deux, il ne marchait pas sur les eaux, Obama. C'est allé trop loin dans l'émotion de l'autre côté. Ça semblait plus positif, mais c'était irréaliste. Combien de fois on a eu des attaques racistes contre lui et sa conjointe? On a aussi déjoué des gens qui tentaient de s'approcher d'Obama. Il y a quelqu'un qui est rentré à la Maison-Blanche à un moment donné, qui a échappé au service de renseignement. On a la mémoire un peu courte sur ces sujets-là, mais jamais on a entendu Obama dire « Hey, la droite radicale, hein, calmez-vous, je vais vous arrêter, je vais envoyer l'armée dans la rue ». C'est là où la personne du président, c'est pas un personnage ordinaire. Mmh. Et normalement, dans le cadre de ses fonctions, bien sûr qu'il va mettre en place des lois ou des projets qui sont favorables aux conservateurs et qui sont favorables à la droite. Ceux qui, ici, aiment Donald Trump, c'est souvent pour ça. On juge qu'on devrait essayer certaines de ces choses au Québec, ici, au Canada. Donc, mais normalement, au-delà de ce qu'on appelle l'agenda politique, au-delà des lois qu'il propose, il devrait calmer. De dire, finalement, d'abord, il a carrément dit dans ce deuxième mandat, tu disais, Pascal, tu as utilisé le terme « revanchard ». C'est exactement ça. Il a dit « Je vais me venger et je vais vous venger ». Donc, c'est très fort de la part d'un président quand il parle de sa population. J'ai entendu en fin de semaine Stephen Miller, puis après ça, je te laisse relancer, Jeff. J'ai lu en fin de semaine, Stephen Miller, son conseiller, dire qu'il allait protéger l'Amérique des Américains. Ça, c'est quelqu'un qui a l'oreille du président, là, qui est un de ses conseillers. On va protéger l'Amérique des Américains. C'est un discours qui est très, très, très fort et qui est très, très chargé. On est peut-être rendu là. Peut-être que certains appuient ça. Mais si vous me dites que c'est un appel au calme, qu'on souhaite calmer le jeu ou rapprocher les gens, clairement, c'est pas ça qu'entend faire l'actuelle administration.
Non, t'as entièrement raison, Luc. Et moi, hier, il y a une image qui est frappante, c'est qu'on est au funérailles de Charlie Kirk et que le président doit faire son discours derrière des vitres par balles. Moi, juste avec ça, si je suis le président des États-Unis, je dis « OK, c'est le temps qu'on se réconcilie. Là. Ça n'a pas de bon sens que je sois obligé de parler derrière des vitres par balles. » Et tantôt, tu as mentionné un terme qui m'a vraiment allumé, c'est « dérive autoritaire ». Et ça me permet de faire un pont avec la liberté d'expression.
Ouais.
Est-ce que la liberté d'expression souffre de cette dérive autoritaire? Moi, selon moi, oui, parce que Donald Trump met énormément de pression en tant que président sur les médias pour que les médias cessent de le critiquer et vont même jusqu'à faire congédier des gens des ondes.
Et là aussi, je disais, il faut voir l'intention. Il y a des gens qui disent « Ah, les médias, vous savez, ils sont favorables aux démocrates en général. » Par expérience, c'est la première chose que je fais le matin. Je fais le tour des réseaux. Là, j'ai plein de signets pour vérifier là où je vais chercher mes nouvelles, ouais, mes interprétations de nouvelles du matin. On trouve de tout aux États-Unis. On trouve de l'extrême et puis du moins extrême, du pro-Donald Trump, le Washington Times, par exemple. On va aller lire le New York Post, on va aller lire Fox News, par exemple. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de médias qui, oui, sont effectivement, les gens qui le disent sont, ont raison, ce sont des médias qui sont considérés comme plus progressistes. Le New York Times, par exemple. MSNBC, le réseau de télévision. On n'est pas loin de Fox News en termes de partisanerie, là, en termes de sujets, on couvre avantageusement plus la gauche et les progressistes. Donc, il y a des présidents qui se sont exprimés là-dessus, mais jamais un président avant Donald Trump n'est allé aussi loin pour faire taire des gens. On a vu ça avec, là, on remonte loin dans le temps, c'est l'historien qui parle, et c'était, en guillemets, c'est avant moi. Ça signifie que c'est déjà un peu vieux. Donc,
arrête donc, Luc, t'es encore tout jeune.
On parle de la chasse aux sorcières et du macartisme, la chasse aux communistes après la Deuxième Guerre mondiale. Là, on a un sénateur qui était suffisamment influent, qui a profité d'une peur collective, d'une émotion, ça rappelle le contexte actuel, et on a exercé des pressions très fortes sur les médias pour ne pas aborder certains sujets ou encore pour mettre de côté des gens qui ne disaient pas ce qu'on souhaitait entendre. Moi, ce qui m'a troublé dans les derniers jours puis dans les dernières semaines, c'est le rôle que jouait l'équivalent du CRTC aux États-Unis, qui est la FCC. Et le président de la FCC, qui est une personne compétente, c'est quelqu'un qui a une large expérience dans les médias, cette personne-là a exercé des pressions directement sur des compagnies ou des corporations pour qu'on prenne la décision de faire taire des gens. Et il y a énormément d'argent. Hein? C'est derrière le fait qu'on ne va pas renouveler Stephen Colbert, par exemple, l'humoriste à CBS. Et ceux qui écoutent, c'est clair, là, Colbert, il fait son pain et son beurre de frapper sur Trump. Donc, soyons honnêtes, francs et transparents. Mais derrière le fait qu'on ne renouvelle pas son mandat, il y a peut-être, c'était moins payant que ça l'a déjà été, les émissions de fin de soirée, mais il y avait carrément une fusion entre grandes corporations et la famille Ellison, qui était derrière une de ces corporations, voulait obtenir sa licence et l'autorisation de faire la fusion de la part de la FCC. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a mis Colbert dehors. C'est un peu ce qui s'est produit aussi avec Jimmy Kimmel. Est-ce que c'était de bon goût ou de mauvais goût ce que dit Kimmel? Je vous laisse juger. Il n'y avait rien là-dedans qui allait à l'encontre du premier amendement, de la liberté d'expression, puis de l'encadrement qu'on en fait, la liberté d'expression, par le premier amendement. Mais il y a encore là beaucoup de sous. Et c'est quand on a menacé l'argent, les propriétaires qui n'avaient pas réagi aux propos de Kimmel, quand le patron de la FCC a dit « vous devriez agir », c'est là où on a suspendu brutalement l'émission. Donc, il y a quelqu'un, en passant à Fox News, un co-animateur de Fox News, qui a appelé à tuer des gens, littéralement, les plus pauvres et les plus démunis, ceux, entre autres, qui refuseraient d'être aidés par l'État. Lui, il a dit, moi, je propose des injections létales involontaires ou encore qu'on les tue. Ce gars-là est encore en onde et, à ma connaissance, la FCC n'a pas appelé Fox News pour dire... Ce gars-là devrait se taire, ou au moins le suspendre pendant un temps. Donc, c'est là où je dis qu'on est en train d'instrumentaliser ou de politiser la liberté d'expression en jouant avec le pouvoir politique, puis le pouvoir de l'argent. Puis de l'argent, il y en a à gauche comme à droite. Ce n'est pas des gens pauvres qui possèdent les médias qui sont progressistes. Hein? Donc, il y a clairement de l'influence qui se fait là. Mais quand vous intervenez dans la liberté d'expression et que vous le faites que d'un côté en plus... Je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement que de la récupération.
Non, en effet, c'est très questionnant ce qui se passe à l'heure actuelle aux États-Unis, Luc. Et tu sais quoi, ça va continuer à être questionnant. Donc, on va être obligé de se reparler à nouveau dans l'émission On en jase.
Écoute, c'est toujours un plaisir avec Pascal et toi, puis n'importe quand.
Parfait. Merci beaucoup, Luc Laliberté, pour ta participation aujourd'hui. On l'apprécie tellement. Pascal Séveille, c'est vraiment pas rassurant, par exemple, d'entendre Luc Laliberté, même s'il est en forme.
Non. Il y a une chose sur laquelle... Est-ce que je vais pas utiliser le terme rassurant. Il y a une chose sur laquelle j'ai accroché.
Ouais.
Sur le fait que son dessein actuel, son but actuel serait beaucoup plus dans un contrôle que
d'avoir
dans,
plus de pouvoir.
Que dans la division elle-même. Là, ça semble être l'exercice de la division pour avoir un contrôle. Et ça m'inquiète, tu comprends? Mais...
Diviser pour mieux régner, qu'on dit?
Exact. J'aurais été, je pense, plus inquiète parce que ça aurait amené énormément d'autres questions. Là, on y va avec des traits narcissiques, des envies de pouvoir décider ça, ce qui est inquiétant. mais ça avait été une envie de division, selon Luc Laliberté, ce qui serait ressorti, j'aurais eu 150 000 questions de plus. Parce que
je
là,
comprends.
Il y aurait eu, OK, parfait, il y a vraiment envie de diviser le peuple. Alors, pour quelle autre raison que le pouvoir? Le pouvoir, là, dans le pire des cas pour Donald Trump, il va le perdre à un moment, en continuant comme ça.
Normalement, il devrait le perdre à l'élection de mi-mandat. C'est encore dans un an.
Ensuite, il va avoir des dommages collatéraux.
Clairement.
Immenses pour les États-Unis, la société, tout ce qui est contact avec l'international. Écoute, il y a des hausses de violence, mais souvent, quand viennent des tragédies comme celle de Charlie Kirk et de tout ce qui nous a énuméré au niveau des démocrates là, qui se font enlever, qui se font tuer aussi et tout ça,
ouais.
Ça vient qu'à arriver sur notre terrain. Puis quand c'est sur notre terrain, auprès de nos proches et tout ça, il y a deux réactions. Il y a la réaction hyper émotive, qui est difficile à contrôler, à gérer dans un peuple comme ça, où tout le monde s'interinfluence. Puis il y a la deuxième possibilité, qui est le sentiment de ralliement. Ce qu'on a vu dans le discours de la femme de Charlie Kirk, qui est « j'ai pardonné », parce qu'elle voit qu'il y a un problème là.
Qui est un discours tellement émotif, mais sensé.
Et qui a ramené l'importance de la discussion, du débat, mais par exemple, l'importance de qualifier d'insupportable et d'impossible à accepter en société qu'on tue quelqu'un pour ses opinions.
Ouais, exactement. On a une réaction ici par texto qui dit « La liberté d'expression, vous avez rien dit ou fait pendant la pandémie où il y a ce qui se passe à ce stade puis c'est la fin du monde. » Je suis vraiment en désaccord avec cette opinion-là. Puis moi, j'aime ça débattre.
T'étais même pas en onde, non?
Non, c'est ça, j'étais pas en onde. Non. Mais de deux, c'est parce qu'il n'y a jamais François Legault ou Justin Trudeau qui est intervenu auprès des médias pour dire « Hey, les gens n'ont pas d'affaire à dire ça. Hey, telle affaire. » Ce qu'on voit avec Donald Trump à l'heure actuelle, ou via son média social Truth Social, réclame le congédiement d'animateur de télévision, d'animateur de radio, restreint l'accès à des journalistes de grandes chaînes médiatiques à la Maison-Blanche. Donc, il y a une très grande différence entre ça et ce qui s'est fait là, durant la pandémie. Moi, en tout cas, c'est là que je la vois la différence. Je ne sais pas pour toi, Pascal, mais moi, je vois la différence à cet endroit-là.
Je trouve ça intéressant ce que tu amènes, honnêtement, là, comme façon de voir les choses. Il y a aussi le fait que, je veux dire, toi et moi, notre cheval de bataille n'a jamais été comme d'autres commentateurs de l'actualité de dire « je peux dire ce que je veux ».
Non.
Notre approche, elle est différente. Alors, c'est sûr que vous pouvez vous dire « oui, mais vous n'êtes pas des défenseurs ». Non, nous, on est défenseurs du débat.
Oui.
Et c'est ça qu'on prône. C'est pas nécessairement le contraire ou la liberté de tout dire. T'sais, moi, je pense que c'est pas toujours toutes les opinions qui sont en équilibre dans une société. Je veux dire, comme celle actuellement où c'est une division, pour moi, elle n'a pas sa place.
Je l'ai toujours dit, les radicaux de gauche, les radicaux de droite doivent s'amener plus au centre pour qu'on ait des débats d'idées intelligentes.
Et voilà. Donc, est-ce que tout ce qu'une personne radicale va dire, moi, je suis prête à assumer que c'est la liberté d'expression. J'ai quand même cette fine ligne-là qui est souvent en train de me titiller les entrailles à me dire... OK, mais là, attends, c'est un discours qui va amener à des tragédies, c'est un discours de division, c'est un discours de non-ouverture, puis tu y vas juste avec ta façon de voir les choses. Ça vient pas dans mes mœurs de communication.
Mais je suis d'accord avec toi, jamais je ne vais cautionner l'incitation à la haine.
Exact.
Ou même l'incitation à un crime.
Je ne considère pas ça comme de la liberté d'expression.
Non, puis là, je vais te donner un exemple. J'ai, sur les zones ici à Boulevard 101, dit « ça n'a pas de sens, ceux qui, lorsque Donald Trump a été victime d'une tentative d'assassinat, ont dit « hey, cette valeur, ils l'ont manqué. » Non, non, non. Ça n'a aucun sens de penser ça. La démocratie ne se règle pas à coups de fusil. La démocratie se règle à coups de débats et d'idées.
Oui, puis tu sais, je veux dire, là est le point de me dire que dans les extrêmes, pour moi, ça, ce n'est pas le débat d'idées. Ce n'est pas une façon de faire valoir ces choses. Ce n'est pas la bataille que je veux livrer avec ma communication et avec le métier que j'ai choisi.
Exactement. Cependant, ben, lorsqu'on élit des gens dans un gouvernement, ben, des fois, ils vont prendre des décisions qui vont aller à l'encontre de ce qu'on aime. On a le droit de le dire, mais des fois, ben, la décision est prise. Et je vais te donner un exemple justement avec la COVID où j'ai été à l'encontre du gouvernement. Moi, je suis allé marcher pour que mes gars puissent recommencer à faire du sport. Je trouvais que c'était très néfaste pour mes garçons de faire de l'école en ligne puis de ne plus avoir d'activité physique.
Toi, tu voyais une limite, là?
Exactement, je voyais une limite, là. Ben, c'est-tu quoi? Le gouvernement ne m'a pas écouté. Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis allé dans la rue, j'ai manifesté. Puis le gouvernement a dit, ben non, regarde, c'est trop important pour nous, la COVID.
Puis t'étais encore en désaccord avec ça.
J'étais en désaccord, mais ben, à un moment donné, je me suis rangé derrière. J'avais pas bien le choix, je peux pas amener mes gars à l'aréna.
Par contre, toute la division qu'il y a eu autour de la vaccination.
Ouais.
Moi, quand j'entendais quelqu'un dire « OK, mais là, on s'est dépêché à faire un vaccin, j'irai pas le chercher, je suis contre le fait qu'on me demande un passeport vaccinal pour des activités, pour voyager et tout ça », j'entendais ces discours-là. Ça faisait quand même en sorte que je me suis fait vacciner. Moi, la décision, c'était « je me fais vacciner ». Le gouvernement a même mis en place des limites. On n'a pas le choix de vivre avec, on a le droit de parler de ça. C'est complètement stupide qu'on sache maintenant qu'il est payant. T'sais, il y a plein d'affaires.
Exactement.
Mais on était en crise sanitaire et je n'aurais pas mieux fait. Je ne sais pas comment j'aurais fait. Il fallait stopper la valve. C'était ma décision. Mais toutes les critiques, les commentaires, les réflexions, elles sont intelligentes. Par contre, ce que j'aimais pas, c'est quand on commençait à se tirer dessus de façon imagée, je m'excuse dans le contexte.
T'as tellement raison.
En train de dire qu'on est des ci puis des ça, puis les familles qui se divisaient justement parce que là, l'un se faisait vacciner, puis l'autre disait ben, t'es pas dans ma famille, c'est fait vacciner, ou le contraire. Il y a énormément de choses qui m'ont dérangé là-dedans, mais j'ai jamais empêché quelqu'un de dire, puis j'ai pas dit que les gens étaient stupides. Je pense que là où j'ai dit, peut-être dans ma tête, qu'il y avait quelque chose de très inquiétant et de stupide, c'était du monde qui aime foncièrement la personne qui est devant elle, mais qui oublie qu'il l'aime parce qu'elle n'a pas la même façon de penser.
En effet. Et puis moi, je vais toujours accueillir les schèmes de pensée différents. Puis on va toujours en débattre. Puis il y a des fois, vous allez me faire changer d'idée. Puis il y a d'autres fois, ben, je vais tenir mordicus à mon idée parce que je vais me dire, sais-tu quoi? C'est la bonne. J'aime ma façon de penser. Comme sur le débat sur l'itinérance qu'on a eu aujourd'hui entre moi et Yannick Marceau, je continue à penser qu'il faut faire preuve d'humanisme face aux itinérants. Il est présentement 13h40. Pascal, on fait une courte pause. Puis par la suite, on revient avec... une discussion justement sur l'immigration?
Oui, avec plaisir.
Par rapport justement au passage de Kim Chu, à tout le monde en parle.
Puis j'ai parlé à un demandeur d'asile qui réussit foncièrement dans la vie, qui est même dans votre quotidien, qui vous parle de politique. Il y en a long à dire aussi sur ce contexte d'immigration.
J'ai hâte d'entendre ça. Restez avec nous, vous êtes sur Boulevard 101, l'émission d'Enjase.